Alors bonsoir, bien-aimés. Donc aujourd'hui, nous poursuivons notre étude 1 Corinthiens et nous sommes rendus au chapitre 10 1 Corinthiens. Et en débutant, donc, je sais que je voulais revenir un peu sur le chapitre 9, où Paul terminait le chapitre 9 en disant qu'il traite, je lis le verset 27, il dit: Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Donc il dit et il affirme fortement, fermement qu'il tient durement son corps, il traite durement son corps, c'est-à-dire qu'il fait tout pour l'assujettir de peur lui-même d'être disqualifié hein, quand il se tiendra devant son Seigneur, devant son Sauveur. C'est ça le risque qui nous guette. Nous pouvons être disqualifiés après avoir longtemps marché devant le Seigneur. Donc nous aussi, nous vivons le même danger d'être disqualifiés. Et comme cela guettait de même les Corinthiens. Ça parle ici des Corinthiens, ceux qui sont forts dans le Seigneur. Paul leur sert donc des avertissements dans le chapitre 10, que nous avons des responsabilités, donc il y a des choses que nous devons faire pour demeurer nous-mêmes sur le droit chemin. Il va être subdivisé à un certain nombre de versets. Je vais lire le chapitre 10, les premiers jusqu'au cinquième verset pour commencer. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Dans les cinq premiers versets, on voit qu'il invite donc les Corinthiens à tirer profit de l'expérience de nos pères dans l'ancien temps, par où ils sont passés pour ne pas tomber dans le même piège. Donc, il se sert des exemples tirés de l'histoire d'Israël pour montrer que un mauvais usage de la liberté conduit à l'orgueil et à ne plus faire confiance à Dieu et donc à chercher à s'appuyer sur ses propres capacités. La première chose que l'on voit dans le verset premier et même dans les versets qui suivent, est l'accent est mis sur tous. Tous ont passé au travers. Tous ont été baptisés. Tous ont mangé. Tous ont bu. Tous. Tout Israël a pourtant bénéficié de ces privilèges, tout Israël a pourtant bénéficié de la protection et de la bénédiction de Dieu. Quelle était-elle? Au verset premier, on voit qu'ils sont tous passés sous la nuée qui représentait à l'époque la gloire de Dieu, la Shekinah, qui Dieu demeurait avec eux tout au long de leur marche, sous la nuée qui représentait la présence constante de Dieu qui marchait au-devant d'eux. Et vivant ces choses, il est logique de penser que cette nuée, l'ayant vécu, ayant bénéficié de ses bienfaits, aurait dû les garder dans l'obéissance vis-à-vis de Dieu. On voit que tous également sont passés au travers de la mer, qui était une forme considérée comme une forme, une sorte de baptême, qui devrait de même façon attacher Israël à Dieu. Une expérience unique de voir les eaux de la mer se fendre pour traverser à pied sec, etc., et qui a été l'objet de leur délivrance, ça devait aussi attacher Israël. Vivre une telle expérience, c'était tellement fort que ça devait attacher Israël à Dieu. Les mêmes personnes au verset 2, ils ont aussi été tous baptisés en Moïse, le baptême étant un symbole qui unissait le chef, le conducteur du peuple à son peuple, qui unit le chef à ses disciples, qui unit le maître à ceux qui le suivent comme disciples. De la même façon que nous avons comme maître notre Sauveur Jésus-Christ, nous disons que nous sommes baptisés en Christ. Et donc, pour bien comprendre la chose, c'est qu'à l'époque, le baptême était administré par la personne que l'on suivait. Personne que l'on suivait. Et donc, de la même façon, donc c'est pour ça qu'il parle qu'ils étaient baptisés en Moïse comme nous sommes baptisés en Christ. Ils ont eu à manger également le même aliment spirituel, Il y a un texte qui en parle clairement, donc dans Exode, chapitre 16. Exode 16, qui en parle, le verset 15. Les enfants d'Israël, 14. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Au verset 15, les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela, car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Une expérience unique des choses qu'ils n'avaient jamais vues et que l'Éternel donc a donné au peuple pendant leur marche dans le désert. Ils ont mangé à la manne et ils ont mangé les cailles qui étaient même des provisions surnaturelles, et c'est ça la particularité des provisions surnaturelles de Dieu durant la période où ils erraient dans le désert. Encore une fois, si cet aspect est évoqué, c'est parce que Paul veut montrer que ces bienfaits miraculeux venant de Dieu devaient aider Israël forcément à mener une vie qui lui soit agréable, une vie supérieure à ce qu'ils menaient. Ils ont aussi bu, au verset 4, d'un même breuvage spirituel. Encore une fois, c'est une provision miraculeuse de l'eau. Il y a deux passages dont la Bible parle qui font état de cela. Dans Exode 17, c'était l'eau qu'ils ont bu qui venait du rocher d'Horeb. Et dans le livre des Nombres, chapitre 20, verset 8, ça nous parle des eaux de Meriba. Même verset 4 nous dit aussi qu'ils ont bu, ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Selon donc une légende qui semble être rapportée par des rabbins de l'époque, un rocher, il y avait comme un rocher matériel, c'est la légende qui circulait, qui était l'image de Dieu forcément, un rocher matériel qui suivait Israël à travers le désert et par lequel ils buvaient donc constamment durant leur marche dans le désert. Alors, cette analogie de Paul, si Paul fait donc allusion au rocher spirituel, fait état automatiquement de la pré-existence de Christ. C'est lui qui était la parole éternelle, c'est lui qui était l'auteur de toutes ces œuvres de l'Ancienne Alliance. Tout a été fait par la parole. Donc, c'est une porte ouverte, donc une analogie qu'il fait par rapport à la pré-existence de Christ. Et au verset 5, malgré tout cela, malgré tous ces bénéfices qu'ils ont eus, malgré toute cette grâce qu'ils ont vécue, le verset 5 nous confirme que malheureusement, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Et il est confirmé que dans le livre des Nombres, chapitre 14, que tous tombèrent à cause de leur incrédulité. Et on sait que de toutes les personnes adultes, tous ceux qui étaient engagés à ce moment-là, qui étaient enrôlés comme des hommes de guerre, on dit qu'il n'y en a que deux qui sont entrés. On nous parle de Josué et Caleb, deux seuls survivants qui sont entrés. C'est sûr qu'il y avait d'autres aussi qui sont entrés, mais c'est tous les jeunes qui étaient là, qui n'étaient pas encore arrivés à l'âge des hommes de guerre, qui ne pouvaient pas donc être enrôlés dans l'armée. Alors c'est la même chose, Paul, en disant ces choses, Paul leur montre l'inquiétude pour les Corinthiens, car on peut avoir été sauvé et risquer de perdre son salut. D'où l'importance de bien commencer, de bien terminer. Dans le livre de l'Exode, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On peut avoir été sauvé et on risque de perdre son salut si on ne tient pas bon jusqu'au bout. On peut avoir été béni tout le long de sa vie. On peut avoir été délivré et finir par mourir dans ce que l'on peut appeler comme désert, hein, dans le manque de tout. On peut aussi avoir été un bon dirigeant, avoir commencé comme étant un bon berger, mais ne pas parvenir soi-même à ce qu'on peut considérer comme la terre promise. Des hommes comme Moïse, des hommes comme Aaron, avec tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont vu, la manière dont Dieu les a utilisés, mais ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Dieu leur a dit, vous n'entrerez pas dans la terre promise. D'où l'importance de bien commencer et de bien finir. Jésus lui-même, autant que Paul fait allusion à l'exemple de nos pères, Jésus aussi cite cet exemple dans l'évangile selon Jean. Jésus cite le même exemple dans Jean chapitre 6, il cite l'exemple des pères, donc, qui, en faisant un parallèle avec les croyants, montre que beaucoup de croyants veulent tirer les bénédictions de ce que Christ donne, mais sans chercher à avoir la connaissance du donateur. Sans vraiment chercher à avoir la connaissance du donateur. Et c'est un passage, donc, Jésus, à partir du verset 52, là-dessus, les Juifs discutaient entre eux en disant « Comment quelqu'un peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain, le vrai pain, qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Et Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant dans Capernaum, dans la ville de Capernaum. Jésus parle de qu'il était le pain de vie, que ce n'était pas comme la manne qu'ils ont mangée. Et puis on voit que les gens n'ont rien compris à la signification spirituelle de la manne qui n'était que, dans le fond, l'ombre des choses à venir. Alors, si les gens ne tiennent qu'à la bénédiction, ne voient que la manne, enlevez-leur la manne, enlevez-leur ce qu'on peut considérer comme la bénédiction matérielle, et c'est clair qu'ils vont se détourner de Christ. Nous-mêmes devons en tirer des leçons, que Dieu nous aide donc à trouver notre joie et notre grande satisfaction en Christ seul, pas par rapport au bien, pas par rapport aux bénédictions, pas par rapport aux expériences que nous pouvons avoir fait avec le Seigneur, mais qu'on trouve notre joie, notre satisfaction en Christ. Savoir que c'est pour lui que nous sommes là et c'est en lui que nous avons toutes choses. Donc, aimer la bénédiction, mais aimer et vouloir connaître et nous attacher au donateur d'abord et avant tout. Amen. Nous allons donc au verset 6 jusqu'au verset 13. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Il dit ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et il dit ici au verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Ici, Paul veut montrer, oui, c'est bien de connaître les expériences qu'ils ont vécues, mais on sait comment ils se sont comportés malgré ces expériences. Et il veut montrer justement ce qu'ils ont fait, qui les a disqualifiés pour ne pas pouvoir entrer dans la terre promise et qui doit nous-mêmes nous servir d'exemple. Au verset 6, il parle des mauvais désirs qui les ont habités. Les mauvais désirs, les mauvais penchants, les convoitises, les choses de la chair, etc., qui les ont attirés. Et comme je dis, le péché ne vient pas comme ça dans la vie d'un enfant de Dieu. Le péché va toujours provenir d'abord et avant tout du désir qui nous habite. Alors si nous entretenons ce désir en nous, oui, l'ennemi trouve là une porte par laquelle il va entrer pour nous faire chuter. Donc nous devons toujours veiller à ce qui commence à naître en nous comme désir et vérifier si cela vient du Seigneur. Les mauvais désirs ont été à la base de la disqualification de ce peuple. La Bible nous dit aussi au verset 7, Paul nous dit qu'ils sont devenus idolâtres. Là, ici, il fait allusion au veau d'or dont la Bible nous parle dans Exode chapitre 32. On va lire rapidement l'Exode chapitre 32. Il nous en parle au verset, à partir du verset 5, dit Aaron, verset 4, Aaron reçut de leurs mains de l'or qu'il jeta dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et donc, de là la colère, on connaît la suite. Moïse qui était monté à la montagne à la rencontre de Dieu, quand il revient au verset 19, et comme il approchait du camp, jour 32, verset 19, et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. Et la colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. À cause de cette idolâtrie, Moïse n'a pas pu se maîtriser, il a eu une telle colère qu'il jeta. Voyez-vous comment la colère peut amener même des serviteurs de Dieu parfois à faire des choses qui sont que le Seigneur nous garde, donc contraires à ce que Dieu attend de nous. Donc, il fait allusion ici, Paul fait allusion à ce veau d'or qu'Aaron avait fabriqué. Et ils ont commencé à adorer, etc. Regardez toute la suite, ils ont eu du plaisir, ils ont commencé à offrir des sacrifices, et c'est des jeux, des temps de plaisir, des danses qu'ils organisaient. Et Paul veut montrer aux Corinthiens que les mêmes dangers sont encourus par les Corinthiens. Chaque fois qu'ils prennent part à des fêtes idolâtres, chaque fois qu'ils font des choses qui les amènent à abuser de leur liberté. Ce qu'il montre donc les risques qu'ils ont courus, qu'ils couraient, c'est de devenir idolâtres à la manière du peuple d'Israël. Et au verset 8, ça n'a pas tardé, ils se sont livrés à l'inconduite. Le peuple d'Israël s'est livré à l'inconduite. L'inconduite, ici, entendait de l'immoralité, c'est toutes sortes de les conséquences de toutes ces danses malsaines qu'ils faisaient, dont il parle au verset 8. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Alors c'est ça, donc, ça fait allusion à ce que dit le livre des Nombres, au verset 25, le premier verset de 1 à 9, donc ça fait allusion à cela. Et il y a un autre texte qui parle aussi de leur inconduite dans Exode, chapitre 32, le verset 28. Et c'est ça là aussi, parmi les commentaires, il y a des gens qui disent, mais ce à quoi Paul fait référence, c'est ce qui était dans le livre des Nombres, parce que ici dit de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Mais quand vous allez dans le livre des Nombres, chapitre 25, verset 9, on parle de 24 000 personnes. Mais d'autres disent que ça se réfère au livre d'Exode. Le livre d'Exode, quand il parle de 3 000 qui sont morts. Alors, là-dessus, on ne va pas faire la guerre. Le nombre n'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est tout simplement montrer qu'il y a plusieurs qui sont morts là-dessus. On n'a pas plus de détails pour savoir est-ce que c'est 3 000 ou c'est 23 000 réellement, mais ce n'est pas le plus important. C'est peut-être dû à une erreur, d'après les commentateurs, c'est peut-être dû à une erreur à cause des choses qui ont été transcrites sur base d'une tradition orale. Donc ce n'est vraiment pas le nombre qui était important. 3 000, c'est déjà beaucoup, qui étaient morts à cause de tous ces agissements qui n'étaient pas bons. Au verset 9, par contre, il nous dit que « ils tentèrent, ne tentons point le Seigneur ». Donc, eux, ils ont tenté Dieu. Tenter Dieu, c'est le défier. Tenter Dieu, c'est le provoquer, chercher à le provoquer pour voir jusqu'où il peut aller dans sa patience. Donc, tenter Dieu, ça peut être par toutes sortes d'agissements. C'est par un abus aussi exagéré de la liberté que nous avons. Ils tentèrent Dieu et plusieurs ont péri par les serpents. La Bible nous en parle également dans le livre des Nombres au chapitre 21, versets 5 à 6, qui se sont rebellés. La Bible dit ceci, « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu ? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer et il n'y a ni figue, ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage. C'était trop fort d'oublier tout ce que Dieu a fait pour eux pendant la traversée, d'oublier toute la présence de Dieu. Et puis, ils commencent à murmurer, ils commencent à faire des choses que Dieu n'agrée pas. Donc, plusieurs ont péri. Et donc, ils ont péri à cause de cela. Donc, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Bien, à cause donc de tous ces murmures que le peuple d'Israël avait à l'époque. Alors, le verset 10 revient en disant qu'ils murmurèrent et ils ont péri aussi par l'exterminateur. C'est un autre texte qui est toujours dans les livres des Nombres. Alors là-dessus, nous devons faire attention aux murmures, aux murmures. Et ils ont péri par l'exterminateur qui était à cette époque la peste. Malheur donc qui arrive aux rebelles, aux gens qui se rebellent contre Dieu, contre la volonté, et se mettre à murmurer. Et donc, ce qui arrive aux rebelles, on ne va pas dire que c'est le fait du hasard, c'est l'œuvre de Dieu qui tient. Il montre que c'est lui qui tient la vie et la mort entre ses mains. Il tient même la mort sous son contrôle. La même chose à l'époque où ils ont envoyé des espions donc, pour aller regarder la terre promise. Tous ceux qui, les gens ont murmuré contre les rapports des espions, ben, la Bible a dit à ce moment-là que Dieu a décidé qu'ils ne verront pas la terre promise. On le voit également dans le livre des Nombres, chapitre 14. Versets 22 à 23. Voilà. Alors, on arrive au verset 11. Après avoir donné l'exemple justement des erreurs et des égarements qui ont été commis par le peuple d'Israël à cause de leurs murmures, à cause de leurs mauvais agissements, tous ces désirs malsains qu'ils ont entretenus en eux, il dit, mais tous ces cas, toutes ces choses, tous ces exemples sont là pour nous servir, nous. Elles ont été écrites, tous ces exemples ont été écrites pour notre instruction. Les choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus. Ce n'est pas juste des éléments historiques, ce n'est pas juste comme un livre d'histoire qui a été écrit, c'est pour que ça nous serve d'exemple. Comme quoi, tout ce qui est dans l'Ancien Testament a un intérêt spirituel pour nous. Souvent, ça a été l'ombre des choses à venir, ça a été écrit pour que ça nous serve de leçon. Et il dit que ça nous a été servi comme ça doit nous servir comme leçon à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. La fin des siècles, il faut entendre par là, c'est une allusion qui est faite au temps de Christ, au temps du Messie, au temps de l'œuvre de la croix où tout a été accompli. Ça correspond donc la fin des siècles, ça correspond à l'accomplissement des temps qui ont été annoncés. Tout ce qui a été écrit et annoncé longtemps par les prophètes a fini par s'accomplir à notre époque à travers l'œuvre de la croix, tout ce qui était attendu. Ça correspond à l'accomplissement également de l'amour de Dieu envers sa création. Dieu a tant aimé le monde, oui, mais tant que ça ne s'était pas manifesté par la venue de Jésus-Christ, c'est cela. Donc, ça s'est accompli à la fin des siècles, qui est le temps du Messie. Leçon à tirer là-dedans, n'ayons pas les mauvais désirs donc, comme nos pères, et n'oublions surtout pas que le mal corrompt et le mal finit par être récurrent si on n'y ferme pas la porte. Verset 12, ainsi donc que celui qui croit être debout, souvent on pense qu'on est debout, on entretient nous, on dit mais non, moi je suis fort en Christ, c'est un risque de vivre dans une certaine autosuffisance. Alors penser être debout, c'est croire qu'on est autosuffisant, c'est nourrir une certaine arrogance, comme celle qui habitait à ce moment-là les gens de Corinthe, qui étaient fiers de leur niveau de sagesse, de leur niveau de connaissance. Être arrogant, c'est avoir une sorte d'excès de confiance en soi, c'est dangereux parce que c'est là qu'on risque de tomber si on y prend garde. Et il termine donc cette partie en disant « Aucune tentation ne vous est survenue, peu importe l'origine de cette tentation. » Et nous savons que nous avons des ennemis, ce qu'on appelle les trois ennemis du chrétien, qui sont le moi, le monde et Satan lui-même. D'où que ça vienne du moi, le culte de la personnalité, d'où que ça vienne plutôt de la nature pécheresse de l'être humain, ou que les tentations viennent de Satan et tous ces démons qui nous pourchassent, de que cela vienne du monde, le monde étant entendu par la terre, le monde étant entendu l'ensemble du système que Satan a érigé dans ce siècle, dans le monde dans lequel nous vivons, un système qui est déchu, que ça vienne, d'où que ça vienne de ces trois ennemis, aucune tentation ne peut être supérieure à ce que l'homme peut supporter. Aucune. Et Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, parce qu'il y a des moyens qu'il met à notre disposition que nous puissions y résister. Parce que Dieu est fidèle. Et lui, quand il a promis, ses promesses sont oui et amen. Aucune tentation n'est survenue parce que oui, nous en avons la preuve à travers la Bible qu'il y a des gens qui ont vécu des tentations, des choses difficiles auxquelles peut-être nous, on n'aurait pas résisté, qui ont été écrites encore une fois pour que nous puissions voir que c'est possible quand on s'attache au Seigneur, quand on a des convictions fermes, ancrées. Nous avons des exemples, des jeunes comme Daniel, des jeunes comme Joseph, qui ont pu passer à travers. Donc, aucune tentation n'est supérieure à ce que l'homme peut supporter. Et Dieu est là pour nous y aider. Les chrétiens doivent donc avoir la foi dans la fidélité de Dieu qui nous donnera toujours le moyen de s'en sortir, le moyen d'endurer, le moyen de supporter cette tentation et le moyen d'y résister. Voilà pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 23, verset 4, il dit « Je ne crains aucun mal, je ne crains aucun mal, même lorsque je me trouve dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que le Seigneur est avec moi. » C'est ce que nous devrions avoir comme confiance. Il est avec nous et il l'a promis. Il serait d'ailleurs avec nous jusqu'à la fin des temps. Maintenant, à partir du verset 14, Paul revient sur le sujet qu'il a abordé donc précédemment. Et il revient donc à partir du verset 14 jusqu'au verset 22, il revient sur la question, le problème des viandes sacrifiées aux idoles. Et Paul invite les Corinthiens donc à fuir l'idolâtrie et à ne pas s'y exposer. On va lire 14 jusqu'à 22. Et c'est pourquoi, donc fort de tous ces éléments qu'il vient d'évoquer, fort de l'expérience que les anciens ont vécue, fort des leçons qu'il faut en tirer, c'est pourquoi nous devons fuir l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents, verset 15, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, ben nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Alors, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Je vais arrêter là. Il revient donc sur la question de ces viandes sacrifiées aux idoles et Paul, pour cela, va mettre en parallèle la communion des idoles, la communion aux idoles et la communion au corps de Christ en voulant montrer que les deux sont incompatibles, ne sont pas compatibles. Et un peu comme sous forme de sarcasme, un peu pour se moquer d'eux, il dit « Je parle comme à des hommes intelligents ». Il avait affaire notamment à des croyants qui étaient orgueilleux, qui se vantaient de leurs connaissances. Et donc, je parle à des hommes comme à des hommes intelligents. Donc, il espère qu'ils vont tirer profit de son enseignement. Ils vont donc tirer profit de ce nouvel éclairage qu'il va apporter à un sujet qu'il a évoqué précédemment au chapitre 8. Il y va progressivement. Au verset 16, il parle de la coupe de bénédiction ou une coupe d'action de grâce. Quand la Bible parle de la coupe de bénédiction ou la coupe d'action de grâce, ça évoque soit cette coupe que Jésus avait utilisé après le repas lors de l'inauguration de la Sainte Cène. Donc, ce qu'il a partagé avec ses disciples lorsqu'il a inauguré, instauré la Sainte Cène. Mais ça peut parler aussi, toujours dans le même sens, d'une pratique qu'il y avait donc à l'époque chez les Juifs, celle que la coupe dont le père de famille, le responsable de la famille juive, qui utilisait lors du souper pascal. C'est la coupe avec moyen de laquelle il prononçait à ce moment-là la bénédiction avant de la donner à ceux qui l'entouraient. Donc la coupe de bénédiction dont Paul parle, il dit, ça nous fait participer, cette coupe nous fait communier à l'œuvre rédemptrice Jésus-Christ. Cette coupe nous fait communier au sang de Christ. Il dit, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Quand nous prenons part à cette table, quand nous prenons part à ce moment de communion, nous communions au sang de Christ, nous communions à l'œuvre rédemptrice Jésus-Christ. De la même façon, le pain que nous rompons nous fait donc participer au corps de Christ. Nous fait participer au corps de Christ en tant que corps physique, nous fait participer au corps de Christ en tant que corps physique qui a été sacrifié, qui a enduré toutes sortes de souffrances. Mais cela nous fait participer aussi au corps de Christ en tant qu'Église, une nouvelle famille à laquelle nous appartenons par le salut que nous avons en Jésus-Christ. Et au verset 17, il montre donc qu'il y a un seul pain. Puisqu'il y a un seul pain, pour nous qui sommes plusieurs, il met l'emphase ici sur l'unité de Christ et de son Église. La communion des chrétiens, ce n'est pas une communion juste par rapport au pain, c'est une communion par notre union réelle avec Christ. Donc, nous sommes unis avec Christ, nous sommes unis avec Christ et avec son Église. C'est ça la notion de un seul pain. Donc, puisqu'il y a un seul pain, nous sommes unis réellement avec Christ et à son Église. Donc, l'Église devient, du coup, le corps de Christ et les chrétiens sont les membres de ce corps. Paul parle donc la communion du Sauveur à travers la scène pour en faire donc un parallèle avec le sacrifice aux idoles. Il n'avait pas abordé au chapitre 8, on voit qu'il y va progressivement. Et au verset 8, il parle d'Israël. Au verset 18, je veux dire, il parle d'Israël. Il dit « Voyez les Israélites selon la chair ». Et les Israélites, donc, c'était les Israélites qui passaient de l'état de païens pour devenir l'Église du Seigneur. Il oppose donc ici l'ancien peuple de Dieu au nouveau peuple de Dieu qui sont les chrétiens. Et il dit être en communion avec l'autel. Il veut montrer par là que ceux qui participent au sacrifice offert. Nous relisons le verset 18, il dit « Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel sur lequel ces victimes sont offertes? Et ceux qui participent au sacrifice offert offrent un culte à celui à l'honneur de qui l'autel a été érigé. » Donc, c'est soit que l'autel est érigé pour le Seigneur, notre Sauveur, à travers la scène, à travers la Sainte Cène, soit l'autel est érigé pour les idoles. Et donc, si nous prenons pas au sacrifice offert sur un autel érigé pour les idoles, ben nous communions avec l'autel. Et il va l'expliquer davantage à partir du verset 19. Que dis-je donc? Il dit, je ne suis pas en train de renier ce que j'avais déjà dit précédemment au chapitre 8, 1 Corinthiens, le verset 4, où il montrait que pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il fait donc le lien ici avec le chapitre 4, du chapitre 8, où il réitère sa pensée. Il dit « Je n'ai pas changé d'avis, je ne me contredis pas quand je disais que la viande n'est rien, l'idole n'est rien. » Mais il veut simplement montrer que les sacrifices païens ne sont pas innocents. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'indifférent pour le chrétien. L'idée ici est pour montrer que l'idolâtrie, tous ces sacrifices offerts aux idoles, ne doivent pas être vus et regardés juste de l'extérieur. Et que derrière tous ces agissements, Il y a une réalité spirituelle qui ne doit pas nous échapper. Il y a une réalité spirituelle qui est cachée derrière. Ce n'est pas l'idole, ni ce qui est offert qui est dangereux, mais ce qui est dangereux, c'est ce qui est caché dans la réalité spirituelle qui est derrière ça. Il faut donc savoir, au verset 20, ce que je dis, ce que je veux dire, ce qu'on sacrifie, ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il faut savoir que derrière toute activité humaine, quelle qu'elle soit, se trouve le royaume spirituel. Alors, si nous pouvons en parler aujourd'hui, nous voulons en parler pour attirer notre attention aussi sur des choses aussi banales. Et ça, on l'entend beaucoup dans la bouche des enfants de Dieu. Certains spectacles, des histoires de magie, des histoires de jeux de cartes, etc. C'est apparemment banal. Du monde. Dieu, ne faites pas attention à ces choses. Il n'y a rien derrière. Bien-aimé, derrière toutes ces choses, il y a souvent un royaume spirituel qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est un petit peu l'avertissement que Paul donne. Donc il dit, la vérité est que quand on offre des sacrifices, quand on fait certains spectacles ou certaines présentations qui paraissent comme banales, souvent c'est des choses qui ont une réalité spirituelle. Les sacrifices ne sont pas offerts à Dieu, mais ils sont offerts aux démons. Quand nous offrons des sacrifices, soit on les offre à Dieu, soit on les offre aux idoles. Et dans ce cas-ci, il veut montrer réellement que les sacrifices sont offerts aux démons, qui sont donc ennemis de Dieu. C'est ce que nous avons lu, d'ailleurs, quand nous avons prêté le chapitre 8, où nous avons lu le psaume 96, où on montrait que toutes les idoles sont, on les appelle bien là-dedans, des faux dieux. Et si c'est des faux dieux, il y a donc une activité spirituelle derrière tous les sacrifices aux idoles. Et ça, c'est un avertissement clair aux Corinthiens, qui se croyaient tellement éclairés qu'ils étaient prêts à prendre part au repas des sacrifices païens. Et Paul veut combattre donc cette liberté mal utilisée en rétablissant la vérité. On voit vraiment qu'il est allé méthodiquement. Et au verset 21, il dit « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons, vous ne pouvez participer à la table du Seigneur. » Donc, il faut choisir. Si on veut mener une vie chrétienne victorieuse, nous devons rien à voir, nous ne devons rien avoir avec les fétiches païens, ni avec tout ce qui touche à l'adoration des démons. Il est donc impossible d'affirmer sa chrétienté, en même temps participer à tout ce qui ressemble à des cultes païens. Pourquoi ? Parce qu'au verset 22, il conclut cette partie en disant « Ou alors, si nous agissons ainsi, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ?» Il y a des choses qui provoquent la jalousie du Seigneur. C'est l'idolâtrie, quand Dieu ne veut céder sa gloire à personne d'autre, si nous donnons gloire à toute autre personne, à tout autre esprit, Dieu n'accepte pas de rival. L'idolâtrie donc détruit automatiquement la communion que nous devons avoir avec Dieu. Et donc c'est un risque de provoquer la jalousie du Seigneur, parce que nous ne sommes pas dit-il, sommes-nous plus forts que lui? Est-ce que nous pouvons supporter le poids de son indignation? Est-ce que nous pouvons supporter le poids de sa colère? Nous savons qu'il y a un temps où sa colère finit par agir et Dieu ne se laissera pas, justement, il ne laissera pas plutôt l'idolâtrie impunie. Alors, le dernier bloc de versets avant de clôturer, c'est les versets 23 jusqu'au verset 30. Nous allons lire. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, ben mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », là, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement, et à cause de la conscience. Et je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Une question que les gens peuvent se poser. Il dit, si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Le message de Paul, ici, aux Corinthiens, c'est de dire, Et il s'adresse très clairement aux chrétiens forts. Hein? Nous avons toujours ces deux catégories. Il dit, bien-aimé, ne scandalisez personne. Ne scandalisez personne. Il revient donc au thème des chapitres 8 et 9, parce qu'il vise, lui, le salut du plus grand nombre. Il vise l'intérêt du plus grand nombre. S'ils viennent, qu'ils viennent avec leur faiblesse, nous devons veiller à cela et veiller à ne scandaliser personne. Alors, il présente dans cette partie, ce bloc de versets, quatre principes de liberté chrétienne, une liberté chrétienne bien comprise. Au verset 23, il encourage davantage tout ce qui peut édifier plutôt que tout ce qui recherche la satisfaction personnelle. Donc, nous devons davantage poursuivre et rechercher l'édification du plus grand nombre plutôt que la satisfaction personnelle. Ça exige de chacun, des Corinthiens, de chacun de nous, parce que ça nous parle aussi encore aujourd'hui, de viser et de rechercher la chose la plus importante qui est donc d'équilibrer la liberté et la responsabilité, celle de celui qui ne doit pas préjudicier donc l'autre pour qui Christ est mort. Il est important donc d'équilibrer notre liberté et la responsabilité, celle de l'un ne doit pas préjudicier celle de l'autre. L'autre, c'est-à-dire le chrétien pour qui Christ est mort. Ça veut dire clairement, tout nous est permis si nous voulons user strictement de notre liberté, si on ne veut pas mettre d'équilibre. Mais par contre, nous devons savoir que tout n'édifie pas le corps de Christ, l'ensemble des croyants. Alors, il ne faut donc pas afficher sa liberté aux dépens de la communion avec les autres croyants. C'est un appel donc à tout ce qui peut être légalisme au niveau de l'Église, au niveau des enfants de Dieu, de ne pas détruire ou chercher à rabaisser les autres juste par légalisme. Verset 24 qui nous montre que le bien-être des autres doit nous préoccuper et ça doit paraître comme une marque de maturité chrétienne. Nous avions vu au début, à partir du verset 25, il dit « Mangez de tout ce qui se vend au marché. » Que ben, si c'est une viande que l'on achète et qui est vendue au marché, qui n'est pas un lieu contrôlé, qui n'est pas un lieu sûr. Oui, ils avaient des endroits sûrs où ils pouvaient acheter ce qu'on avait appelé des aliments cachers, des aliments qui ont une certaine certification, qui n'ont pas été offerts aux idoles, mais le marché, c'est un lieu où il y a toutes sortes d'origines. Si la viande est vendue au marché, si le repas vous est servi dans un festin, vous n'êtes pas sûr de son origine, il dit, ben mangez sans vous poser des questions par motif de conscience. Pourquoi ? Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Psaume 50, verset 10, nous le confirme, dit « Tous les animaux de la terre sont à moi, dit Dieu. » Par contre, nous savons que tout ce que nous mangeons, parce que ça a été vendu au marché, nous n'en connaissons pas l'origine ou servi dans un festin, nous avons, avec la connaissance que nous avons, la possibilité de le sanctifier par la prière. On est invité quelque part, ne commençons pas à poser trop de questions, juste par motif de conscience, mais on peut manger, mais on a la possibilité de le sanctifier. Quand à partir du verset 28, là, il montre l'autre côté de la médaille. Il dit, par contre, si quelqu'un vous dit, si quelqu'un vous prévient, si quelqu'un vous donne une information en disant que ce que vous avez mangé ou ce que vous allez manger a été offert en sacrifice, là, Paul dit, là, n'en mangez pas. Encore une fois, à cause de la conscience de celui qui vous a donné l'avertissement. Il faut donc accepter de s'abaisser au niveau de l'autre plutôt que de le condamner. Ici, si l'autre vous prévient, si l'autre vous dit que la viande a été sacrifiée, ben, n'en mangez pas à cause de sa conscience. Ça nous met devant toujours la même situation. Les frères forts vis-à-vis de ceux qui sont faibles, à cause de la conscience du faible qui peut être troublé à cause de sa faible foi, ben, n'en mangez pas parce qu'il vous a prévenu. C'est là-dessus que certains se posent la question, pourquoi, tiens, ma liberté serait jugée simplement parce que moi, je vais juger de ma liberté. Il dit, oui, votre liberté n'est pas jugée, mais il faut l'accepter simplement pour ne pas scandaliser personne. Et vous le faites par pure charité. Ça n'enlève absolument rien à votre liberté. Vous le faites par pure charité. Voilà, donc, termine à partir du verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, sorte que vous fassiez quelque autre chose, ben faites tout pour la gloire de Dieu. C'est vraiment un principe général qui doit nous guider dans la vie chrétienne, qui consiste donc à chercher l'avantage du plus grand nombre, l'avantage est faible pour que Dieu soit glorifié en tout cela. Il ne s'agit pas non plus de tout accepter, mais c'est d'accepter tout ce qui peut glorifier le Seigneur. Verset 31, il dit, il faut tout faire pour qu'à travers mon comportement, des âmes soient sauvées, à travers mon comportement, des faibles puissent se sentir aimés, qu'ils puissent continuer à s'attacher au Seigneur et faire confiance que le Seigneur va leur permettre de grandir avec le temps. Verset 32 nous dit « Ne soyez en scandale ni aux Grecs ni aux Juifs. Ne soyez d'aucune manière une pierre d'achoppement, ni aux Juifs, ni à l'Église, aux Grecs. C'est quand nous les approchons pour les évangéliser, pour leur parler la bonne nouvelle, ne soyons pas en scandale, ne soyons pas une pierre d'achoppement, ne soyons pas quelqu'un qui va les arrêter dans leur cheminement, mais ne soyez pas non plus... objet de scandale dans la communion fraternelle, dans l'Église de Dieu. Alors, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire. Il prend son propre exemple, où il montre qu'il cherche non pas son avantage à lui, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Donc, Paul termine en rappelant son propre exemple, en donnant son exemple, et ce que je vous demande de faire, je ne vous le demande pas, alors que moi, je ne suis pas capable de le faire. Moi, je suis capable de me priver de mes droits, de me priver de ma liberté, de me rendre disponible pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Et c'est vraiment ça, ce principe qui doit guider tout enfant de Dieu. Et c'est vraiment le but même de l'Évangile et de toute la vie chrétienne. Voilà donc la fin de ce chapitre 10. Et bénissons le Seigneur pour cela. Et donc, nous allons pouvoir continuer la prochaine fois avec le chapitre 11. Le Seigneur vous bénisse.